Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir. C'est toujours un plaisir. Croyez-vous au miracle? Oui. En fait, il faudrait plutôt dire ceci. Croyez-vous au miracle? Oui. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de cet appel. Il est considéré comme l'un des plus grands appels de l'histoire de la radiodiffusion sportive. Un groupe d'étudiants, l'équipe américaine de hockey, venait de battre l'Union soviétique. Les soviétiques étaient considérés comme imbattables. Ce groupe de jeunes hommes a choqué le monde entier en battant ce qui était considéré comme la meilleure, l'une des meilleures équipes de l'histoire du hockey, à savoir les soviétiques. C'était aux Jeux olympiques d'hiver de 1980 à Lake Placid. Ces six mots, croyez-vous au miracle? Et la réponse, oui, sont restés dans les mémoires. Beaucoup d'entre vous se souviennent probablement d'en avoir entendu parler. Mon frère et moi aimons regarder le sport. C'est l'un de mes passe-temps, l'un de mes plaisirs. J'aime suivre les sports et les différentes équipes sportives, et le sport fait partie intégrante de ma vie. Mais même moi qui suis un grand amateur de sport, je dois admettre qu'il est exagéré d'appeler cela un miracle. Ce qui s'est passé était-il étonnant? Bien sûr. Était-ce inattendu? Absolument. Personne ne s'attendait à ce que cette équipe puisse gagner. Mais pour parler de miracle, y a-t-il eu quelque chose de surnaturel sur la glace ce jour-là? Je dois dire que non. Non. Le miracle sur la glace. Vous aviez ces jeunes hommes qu'ils ont entraînés. Je suis sûr qu'ils ont travaillé très dur et qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour essayer de gagner. Mais encore une fois, pour parler de miracle, je n'ai pas vu de loi naturelle défiée ou quoi que ce soit de ce genre. Aucune loi physique. Je sais, mes frères, que je m'en prends peut-être au miracle sur la glace. C'est probablement une façon de parler. Vous savez, je comprends. Mais pour certaines personnes, ce sont les seuls miracles qu'elles n'aient jamais vécus. Les seuls miracles qu'ils connaissent vraiment, un événement aléatoire, quelque chose qui était peut-être inattendu, qui était surprenant, mais ce sont les seuls miracles qu'ils connaissent. Or, en tant que peuple de Dieu, frères, nous savons mieux. Nous savons que les miracles existent, qu'ils sont réels, qu'ils se produisent. Les miracles sont la façon dont Dieu travaille avec son peuple. Je considérerais les miracles comme l'un des outils les plus importants de la boîte à outils de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. L'un des outils les plus importants dont il dispose pour travailler avec son peuple. Et les enfants d'Israël, vous pensez à cette période de l'année, les jours saints du printemps. Pensez beaucoup aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont connu de nombreux miracles pendant leur séjour en Égypte. En fait, cette époque, celle qu'ils ont vécue en Égypte et dans les environs, est considérée comme l'une des périodes les plus miraculeuses de l'histoire de l'humanité. De très nombreux miracles ont eu lieu pendant cette période. Et il y a beaucoup de choses, mes frères, beaucoup de choses que nous pouvons apprendre des expériences d'Israël. Et comme je l'ai dit, surtout à l'approche des jours saints du printemps, nous avons beaucoup à apprendre de ces expériences, y compris de ces miracles. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons étudier les miracles que Dieu a accomplis pour Israël pendant qu'il était en Égypte. Et je veux que nous comprenions exactement pourquoi Dieu les a utilisés, exactement pourquoi Dieu utilise les miracles. Avant de nous pencher sur des miracles spécifiques, nous allons en examiner beaucoup, mais avant de nous pencher sur des miracles spécifiques, je pense qu'il est important de se poser quelques questions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un miracle? Vous savez, j'ai parlé du fait de gagner un match de hockey contre toute attente, Et les gens appellent cela un miracle. Je pense donc qu'il est important, frère, que nous comprenions ce qu'est un miracle. Et la deuxième question est de savoir à qui les miracles sont destinés. Qu'est-ce qu'un miracle et à qui est-il destiné? Je pourrais définir les miracles de différentes manières. Il y a plusieurs façons de le faire, mais pour mon propos d'aujourd'hui, je vais définir un miracle comme une intervention directe de Dieu. Un miracle est une intervention directe de Dieu. Il peut s'agir d'un événement. Il est souvent surnaturel. Et c'est quelque chose que seul Dieu peut orchestrer. Ce n'est pas le temps ni le hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une intervention directe de Dieu. La Bible, mes frères, est remplie de tels événements. Regardez le chapitre 15 de l'Exode. Exode, chapitre 15. Exode, chapitre 15, verset 11. Exode, chapitre 15, verset 11. Lisez-le ici. Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux? Qui est comme toi, glorieux et saint, redoutable dans ses louanges, faisant des prodiges? Vous voyez donc ce mot, prodige. Ce mot signifie miracle. Ainsi, chaque fois que vous voyez le mot merveille dans la Bible, pensez au miracle. Et le mot miracle est tout à fait approprié. Il désigne quelque chose d'inhabituel, d'unique et d'indéniable. Et lorsque cela se produit, les gens se demandent, oh là là, comment est-ce arrivé? C'est quelque chose qui attire l'attention. On se pose des questions. Qui a déjà entendu l'expression signe et prodige? Des signes et des prodiges. Nous l'avons tous entendu. Le lien entre les signes et les prodiges est très intéressant. Passez au Deutéronome 26. Deutéronome 26. Ce lien entre les signes et les prodiges nous aide à mieux comprendre pourquoi Dieu utilise les miracles. C'est l'une des choses sur lesquelles nous nous concentrons aujourd'hui. Deutéronome 26, nous reprenons au verset 8. Deutéronome 26, verset 8. L'Éternel nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec de grandes horreurs, des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges. Le mot « signe » peut également être traduit par « miracle ». Il s'agit d'un signal et cela a du sens. Un signe. Que fait un signe? Un signe signale quelque chose. C'est un signe de quelque chose. Le mot grec pour miracle est très similaire à signal. Le mot grec pour miracle est une indication. Une indication. Donc, si nous mettons tout cela ensemble, ce que nous avons couvert, un miracle est une intervention directe de Dieu qui provoque l'émerveillement et qui est censé être un signal ou une indication. Il s'agit donc d'une intervention directe de Dieu qui suscite l'émerveillement et qui est censé être un signal. Mais un signal de quoi? C'est ce dont nous allons parler. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Un signal de quoi? Passons maintenant à l'autre question. À qui s'adressent les miracles? Nous savons déjà ce que sont les miracles. Il s'agit d'une intervention directe de Dieu qui suscite l'émerveillement et qui est destinée à servir de signe. À qui les miracles sont-ils destinés? Qui Dieu vise-t-il lorsqu'il accomplit un miracle? Eh bien, la réponse facile et correcte est son peuple. Dieu vise l'attention de son peuple. Les miracles sont destinés au peuple de Dieu. Mais est-ce tout? Le peuple de Dieu est-il le seul à qui les miracles sont destinés? Non. Nous pourrions rester ici. Allons au chapitre 11 du Deutéronome. Deutéronome, chapitre 11. Deutéronome chapitre 11. J'ai déjà lié le temps d'Israël et sa sortie d'Égypte au miracle. Je l'ai fait dans Deutéronome 26. Mais voici un autre verset qui, vous le remarquerez, fait le lien, mais qui répond à la question de savoir à qui Dieu s'adresse avec ses miracles. Deutéronome 11, verset 3. Deutéronome 11, verset 3. Et ses miracles, parlant de Dieu, et ses actes, qu'il a fait au milieu de l'Égypte à Pharaon, roi d'Égypte, et à tout son pays. Nous venons de lire que les miracles ont été faits à Pharaon et à tous ceux qui étaient dans le pays, à tous les Égyptiens qui étaient dans le pays. Maintenant, si vous savez quelque chose des miracles qui sont arrivés à Pharaon, nous allons en couvrir plusieurs, mais si vous savez quelque chose des miracles qui sont arrivés à Pharaon, ils n'étaient pas bons. En fait, ils étaient plutôt mauvais. Nous venons donc d'apprendre deux choses supplémentaires. Les miracles peuvent s'appliquer à ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu et les miracles ne sont pas toujours positifs, ils ne sont pas toujours bons. Et c'est logique si l'on se réfère à notre définition. Un miracle est simplement une intervention directe de Dieu, il suscite l'émerveillement et c'est un signal. Il peut être positif ou négatif. Les miracles ne sont pas uniquement destinés au peuple de Dieu. Ils peuvent être destinés aux personnes avec lesquelles Dieu travaille pour qu'elles deviennent son peuple. De nombreuses personnes, peut-être beaucoup d'entre vous qui entendez ce message, sont entrés dans l'Église parce que quelque chose de miraculeux s'est produit. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans votre vie et vous avez dit, « Vous savez quoi ? Je veux faire partie de cette Église. Je veux faire partie du peuple de Dieu. » Les miracles peuvent donc s'adresser à ceux qui font déjà partie de l'Église de Dieu, à ceux qui sont déjà le peuple de Dieu, ou à ceux avec lesquels Dieu travaille pour qu'ils deviennent son peuple. Les miracles peuvent s'adresser à toute personne dont Dieu essaie d'attirer l'attention. C'est un signal. C'est une indication. Selon la personne que Dieu veut signaler, selon la personne que Dieu veut émerveiller à son sujet, il peut accomplir un miracle directement vers elle, ou elle peut être témoin d'un miracle accompli pour quelqu'un d'autre. C'est un signal. Il est important, mes frères, il est important que je pose cette base alors que nous avançons. Ce que sont les miracles et à qui ils sont destinés. Alors que je commence à parler de la période d'Israël en Égypte, je vais partir d'un point de départ inhabituel. Vous vous dites, d'accord, Israël était esclave en Égypte. Eh bien, je vais partir d'un endroit inhabituel pour aborder ce sujet. Allons au chapitre 41 de la Genèse. Genèse, chapitre 41. Voyons comment Israël est arrivé en Égypte. Genèse, chapitre 41. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Genèse, chapitre 41. Pharaon, juste pour vous donner un peu d'installation ici, un peu de contexte. Pharaon, probablement l'homme le plus puissant du monde à l'époque, était troublé par ses rêves qu'il faisait. Il faisait donc des rêves, il était troublé par ses rêves, et il en savait assez pour savoir que ses rêves signifiaient quelque chose. Ses rêves contenaient un message. Et il voulait que quelqu'un interprète les rêves qu'il faisait. Et son boulanger, l'homme qui avait passé du temps en prison, se souvint qu'il y avait un jeune homme hébreu, cet homme était bien sûr Joseph. Il se souvint que Joseph avait la capacité d'interpréter les rêves. Le boulanger a donc recommandé à Pharaon de parler à Joseph pour qu'il interprète ses rêves. Nous reprenons l'histoire en Genèse 41, 14. Genèse 41, 14. Nous allons lire quelques versets. Pharaon envoya appeler Joseph, et on le fit sortir en toute hâte du cachot. Joseph était encore emprisonné à ce moment-là. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit auprès de Pharaon. Pharaon dit à Joseph, J'ai fait un rêve, et il n'y a personne qui puisse l'interpréter. Et j'ai entendu dire de toi que tu peux comprendre un songe et l'interpréter. Joseph répondit à Pharaon, ce n'est pas moi, Dieu donnera à Pharaon une réponse de paix. Nous voyons donc que Pharaon est présenté au Dieu de l'univers. Joseph dit, écoutez, ce n'est pas moi qui ai cette capacité. Dieu m'utilise simplement pour cette capacité. Mais c'est Dieu qui interprète les rêves. Maintenant, pour revenir à un point précédent, à qui ce miracle était-il destiné? Parce que c'est un miracle que Dieu puisse intervenir et interpréter les rêves et le faire par l'intermédiaire d'un être humain. Ce miracle était-il destiné à Joseph? Était-ce son excuse ou la raison pour laquelle il a été libéré de prison? Ce miracle était-il destiné à Pharaon? Peut-être le miracle était-il destiné à toute l'Égypte et aux nations environnantes? Eh bien, pour répondre à la question, tout cela à la fois. Le miracle était destiné à toutes ces personnes. Frères et sœurs, les miracles qui nous sont arrivés peuvent avoir un but bien plus grand que nous ne le réalisons à ce moment-là. Cette intervention miraculeuse de Dieu peut avoir un but bien plus grand que nous ne le réalisons à ce moment-là. Le fait que nous obtenions une promotion, qui peut être miraculeuse, peut être une intervention de Dieu qui nous amène à nous poser des questions et qui est censé être un signal. Le fait que nous obtenions ce poste peut entraîner la bénédiction de toute l'entreprise. Tout le bureau où nous travaillons, ou l'usine où nous travaillons, ou les personnes que nous côtoyons. Si nous obtenons ce travail, ils seront tous bénis et prospéreront. Et ce n'est pas tiré par les cheveux. Nous sommes sur le point de lire qu'une nation entière et un groupe de personnes entourant cette nation, dépendant de cette nation, ont été bénis à cause d'un seul homme. Nous sommes sur le point de lire cela. Il n'est donc pas absurde de penser que notre présence, les miracles qui nous arrivent, peuvent affecter ceux qui nous entourent. Passez à la Genèse 45. Genèse 45. Les Genèses 42 à 44 couvrent les frères de Joseph. Ces frères qui les avaient abandonnés, laissés pour morts. Elles couvrent ces frères qui viennent en Égypte pour se nourrir. Ils sont venus en Égypte pour se nourrir. Les rêves. Revenons-y. Revenons à la Genèse 41. Lisons un peu ces rêves. C'est important pour préparer le miracle de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu était en train de faire. Genèse 41. Nous reprendrons au verset 37. Verset 37. La chose était bonne aux yeux de Pharaon et de tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Pouvons-nous trouver un homme comme celui-ci, un homme dans lequel se trouve l'Esprit de Dieu ?» Les rêves que Joseph avait interprétés pour Pharaon annonçaient une famine de 7 ans. Et Joseph, que Dieu a utilisé, a élaboré un plan pour nourrir l'Égypte et la nation environnante pendant ces 7 années. Pharaon a remercié Dieu pour cette interprétation. Il a reconnu que Joseph travaillait sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Pharaon dit à Joseph, « Si Dieu t'a montré tout cela, c'est qu'il n'y a personne d'aussi discret et d'aussi sage que toi. Tu dirigeras ma maison, et tout mon peuple sera gouverné selon ta parole. Seulement, je serai plus grand que toi sur le trône. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit sur la main de Joseph. Il le revêtit d'un vêtement de fin lin et lui mit au cou une chaîne d'or. Il le fit monter sur le second char qu'il avait. Ils crièrent devant lui, fléchirent le genou, et il l'établit chef de tout le pays d'Égypte. Pharaon dit à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Frères et sœurs, c'est un miracle. Joseph est passé d'une situation où il était dans un cachot et vous savez toutes les choses qu'il avait vécues auparavant. Il est passé de cette situation à celle de commandant en second en Égypte. Et nous allons voir, mes frères, combien de personnes ont bénéficié de cela. Vous pouvez maintenant passer à la Genèse 45. De 42 à 44, on voit ses frères venir chercher de la nourriture, alors que la famine avait déjà commencé à se faire sentir. Ses frères étaient venus en Égypte pour chercher de la nourriture et ils ont été amenés devant Joseph. Et Joseph, ils ne l'ont pas reconnu lorsqu'ils l'ont vu. Joseph les mettait à l'épreuve pour voir s'ils avaient appris quelque chose depuis qu'ils l'avaient abandonné. Nous faisons donc des allers-retours avec eux. Nous pourrions reprendre dans la Genèse 45. Nous commencerons au premier verset, Genèse 45, verset 1. Alors Joseph ne put se retenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui, et il cria. C'est à ses frères qu'il s'adresse. Que chacun, et ceux qui se trouvaient dans la pièce à ce moment-là, que chacun s'éloignait de moi. Et il n'y avait personne avec lui pendant que Joseph se faisait connaître à ses frères. Il a donc fini par leur faire savoir qui il était. Il pleura à haute voix, et les Égyptiens et la maison de Pharaon l'entendirent. Joseph dit à ses frères, Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Et ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés par sa présence. Ils se disent, Qui es-tu? Tu es Joseph? Tu es le commandant en second en Égypte? Ils étaient troublés par sa présence. Joseph dit à ses frères, Frères et sœurs, approchez-vous de moi, je vous prie. Ils s'approchèrent, et il dit, Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne vous irritez pas contre vous-même de m'avoir vendu ici, car Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver la vie. Joseph a ensuite expliqué comment il a obtenu le rôle de dirigeant qu'il a eu en Égypte, et comment Dieu l'a utilisé pour aider sa famille et tous ceux qui se trouvaient en Égypte et dans les pays environnants. Maintenant, mes frères, après avoir lu cela, je veux que vous fassiez appel à votre imagination. Imaginez que vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous êtes maintenant un être de Dieu, votre famille est amenée devant vous, la famille qui n'était pas dans l'Église. Vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu. Vous régnez en tant qu'être de Dieu et vous leur expliquez maintenant qu'ils ne vous reconnaîtront probablement pas au début. Mais vous leur expliquez maintenant que vous êtes Joseph et que vous êtes un être de Dieu. Je suis un être de Dieu. Inutile de dire qu'ils seront probablement troublés par votre présence. Ils commenceront enfin à voir ce que Dieu faisait. Ils comprendront enfin, tout comme les frères de Joseph l'ont compris lorsqu'ils ont reconnu qui il était, qu'il occupait désormais une position très puissante. Il était en mesure de les aider et d'aider ceux qui les entouraient. Et vous remarquez que Joseph n'était pas amer. Il n'était pas du tout amer. Il comprenait ce que Dieu faisait. Frères et sœurs, lorsque nous serons des êtres de Dieu dans le royaume de Dieu, nous ne serons pas amers, nous aurons accompli la mission, et maintenant nous sommes en mesure d'aider nos familles à faire de même. Quelle façon étonnante de voir cet échange entre Joseph et ses frères. Ne négligez pas le miracle d'être un fils ou une fille engendrée, par Dieu. Le but est que nous soyons dans le royaume de Dieu en tant qu'êtres divins et que nous puissions aider nos familles. Nous pouvons les aider à nous accompagner, à comprendre ce que Dieu fait et comment ils ont la possibilité de faire exactement la même chose. D'accord. Comment Israël est-il arrivé en Égypte? Comment Israël est-il arrivé en Égypte? Reprenez au verset 17. Pharaon dit à Joseph, Dis à tes frères, faites ceci, lâchez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prends ton père, il s'appelait Israël, et tes familles, et venez à moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de bon dans le pays d'Égypte, et vous mangerez les graisses du pays. Aujourd'hui, vous en avez reçu l'ordre. Prenez dans le pays d'Égypte des chariots pour vos petits-enfants et pour vos femmes, et faites venir votre père. C'est un miracle, mes frères. Pharaon, sans doute l'homme le plus puissant du monde, dit à Joseph d'aller chercher sa famille et de venir manger les bonnes choses du pays. Verset 20, et ne tenez pas compte de vos affaires. N'apportez rien. Vous n'avez pas besoin d'apporter vos affaires. Nous remplacerons tout cela. Ne vous souciez pas de vos affaires, car le bien de tout le pays d'Égypte est à vous. Les enfants d'Israël firent ainsi, et Joseph leur donna des chariots, selon l'ordre de Pharaon, et leur donna des provisions pour le chemin. Verset 28. Israël dit, « Cela suffit. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai le voir avant de mourir. » Israël est entré en Égypte, et tout cela est le résultat d'un miracle. Une série de miracles. Frères et sœurs, nous ne voyons pas toujours et c'est important. Nous ne voyons pas toujours l'entrée d'Israël en Égypte comme un miracle. Nous nous concentrons généralement sur les mauvaises expériences. C'est compréhensible. Nous nous concentrons sur les mauvaises expériences d'Israël en Égypte, mais nous ne reconnaissons pas toujours qu'il y a eu de bonnes expériences lors de l'entrée d'Israël en Égypte. Quelle leçon en tirer pour nous ? Parfois, frères, les miracles peuvent commencer de manière très positive. Dieu peut intervenir dans nos vies. Quelque chose de très positif peut se produire. Quelque chose de très merveilleux peut se produire, et cela peut être le résultat d'un miracle. Entrer dans l'Église, être membre de l'Église de Dieu, c'est un miracle. C'est une chose merveilleuse. C'est très, très positif, mais cela ne veut pas dire que nous ne serons pas persécutés plus tard. Ce n'est pas parce qu'un miracle nous est arrivé, quelque chose de positif, quelque chose de merveilleux dans notre vie, qu'il en sera toujours ainsi, et cela ne veut pas dire que la première chose n'était pas un miracle. C'est par miracle que Joseph, sa famille et Israël sont arrivés en Égypte. Il est positif qu'ils aient pu manger. Ils ne sont pas morts de faim, mais, bien sûr, les choses ne sont pas restées ainsi. Nous avons parlé de l'entrée dans l'Église. Dieu nous envoie un compagnon. Disons que certains d'entre vous cherchent à se marier et attendent l'intervention de Dieu. Dieu vous envoie un partenaire. C'est une chose merveilleuse. C'est son intervention directe. On se pose des questions, mais cela ne veut pas dire que tout sera parfait, ni que ce n'était pas un miracle. Rappelez-vous que Dieu utilise les miracles comme un signe, pour attirer notre attention, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Dans certains cas, les miracles peuvent être le début d'autres défis à venir. Israël et sa famille se trouvent en Égypte et Dieu les a sauvés de la famine. Ils ont pu vivre des produits de la terre et ont pu survivre. Que s'est-il passé ensuite ? Nous nous tournons vers le livre de l'Exode. Nous commencerons par le début du livre. Exode, chapitre 1. Commençons au verset 6. Exode, chapitre 1, verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d'Israël furent féconds, ils s'accrurent, ils multiplièrent, ils devinrent extrêmement puissants, et le pays en fut rempli. Le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des enfants d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. » Il assiste donc à cette explosion démographique, à ce baby. Boum. Allons, Traitons-les avec sagesse, de peur qu'ils ne se multiplient, et qu'en cas de guerre, ils ne se joignent à nos ennemis et ne nous combattent. Et donc, faites-les sortir du pays. C'est pourquoi ils établirent sur eux des maîtres d'œuvre qui les accablaient de leurs fardeaux. Ils bâtirent pour Pharaon des villes de trésors, Païsom et Ramsès. Le peuple d'Israël est donc devenu esclave. Ils ont été rendus esclaves. Dieu les avait multipliés dans tout le pays. Cela effraie Pharaon. Il décide de les réduire en esclavage, mais quelque chose d'inhabituel se produit. Verset 12. Plus il les maltraitait, plus ils se multipliaient et croissaient. Nous avons vu précédemment qu'ils se multipliaient. Plus de bébés. Plus de bébés. La population augmentait. Eh bien, plus ils les affligeaient, plus ils se multipliaient. Ils continuaient à se multiplier. Verset 19. Les sages-femmes dirent à Pharaon, « Les femmes hébraïques ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vives et accouchent avant que les sages-femmes viennent à elles. C'est pourquoi Dieu a bien traité les sages-femmes, et le peuple s'est multiplié et est devenu très puissant. » Pharaon a donc essayé d'empêcher les Israélites de se multiplier. Il ne voulait pas qu'ils prennent le pouvoir, alors il a décidé de les affliger. Cela n'a pas fonctionné. Cela n'a rien changé. Ils ont continué à se multiplier malgré leur statut d'esclave. Dieu est intervenu directement et a fait croître les Israélites alors qu'ils étaient opprimés. L'objectif de Dieu était que les Israélites augmentent. C'est tout. Et rien n'allait l'arrêter. Rien n'allait empêcher ce miracle de se produire. Dieu avait un plan. Il voulait qu'ils augmentent jusqu'à un nombre suffisant avant de les pousser hors d'Égypte et de les libérer. Il nous arrive souvent, frères, des choses qui semblent mauvaises sur le moment, mais Dieu a une raison de les faire. Dans ce cas, ils se multipliaient, et rien de ce qui leur arrivait n'allait les empêcher de le faire. De mauvaises choses nous arrivent, mais cela ne contrecarre pas le plan de Dieu pour nous. Cela ne veut pas dire que cela ne va pas se produire. Exode 2, reprenez au verset 23. Exode 2, verset 23. En avançant rapidement dans le temps, on apprend que le roi d'Égypte mourut. Le roi d'Égypte est donc mort au moment où il a commencé à les affliger. Les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude, ils crièrent, et leurs cris montèrent vers Dieu à cause de la servitude. Dieu entendit leurs gémissements. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob, qui fut ensuite rebaptisé Israël. Dieu regarda les enfants d'Israël, et Dieu les respecta. Dieu n'a pas oublié Israël et la promesse qu'il a faite à Abraham. Il ne l'a pas oublié. Beaucoup de choses se sont produites depuis cette promesse, mais Dieu ne l'a pas oublié. La situation que Dieu avait créée et laissée se produire était parfaitement préparée pour un miracle. Elle était parfaitement préparée pour qu'il intervienne, pour que les gens s'interrogent et pour qu'ils s'en servent comme d'un signe. Le moment est venu pour Dieu d'intervenir. Exode, chapitre 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme. C'est-à-dire à Moïse, une flamme de feu au milieu d'un buisson. Il regarda, et voici, le buisson brûlait, et le buisson ne se consumait pas. Il s'agit manifestement d'un miracle. Verset 6, il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la détresse de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris à cause de ses bourreaux, car je connais ses souffrances. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, Dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu des Cananéens et des Éthiens et des différents peuples. Verset 9. Maintenant, voici, les cris des enfants d'Israël sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression dont les Égyptiens les accablent. Et j'ai vu l'oppression dont les Égyptiens les accablent. Dieu a vu l'oppression pendant tout ce temps. Frères et sœurs, lorsque nous passons par l'oppression et les défis, Dieu les voit tout le temps. Il ne nous a pas abandonnés. Il attend simplement le moment opportun pour nous délivrer. Verset 10. Viens maintenant, et je t'enverrai vers Pharaon, afin que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Nous voyons donc ici que Dieu montre d'abord le miracle à Moïse, ce miracle du buisson ardent, et qu'il communique avec lui. Il montre d'abord ce miracle à Moïse pour gagner sa confiance. Moïse a besoin d'être confiant. Frères et sœurs, à quel point sommes-nous confiants lorsque nous voyons des miracles s'opérer dans nos vies? Nous sommes très confiants. Quand nous voyons la main de Dieu, quand Dieu fait quelque chose et intervient directement pour nous, quel est votre degré de confiance? À quel point suis-je confiant? Je suis très confiant. Lorsque notre patron nous dit le jeudi que si nous allons à la fête, nous serons renvoyés. Nous n'aurons plus de travail. Il nous le dit le jeudi. Nous rentrons chez nous, nous prions à ce sujet. Nous revenons le vendredi, le patron nous appelle dans son bureau et nous dit, « Vous savez quoi ? J'ai changé d'avis. Vous pouvez finalement aller à la fête. En fait, je m'assurerai même que vous soyez payé. » À quel point êtes-vous confiant quand quelque chose comme cela arrive ? Très confiant. Même les gens qui entendent ces histoires deviennent confiants parce qu'ils savent que Dieu intervient et qu'il a le pouvoir de délivrer. C'est l'une des façons dont Dieu utilise les miracles, et il l'a fait avec Moïse pour lui donner confiance. Le buisson ardent n'était que le début des miracles. Exode 7, juste le début des miracles que Dieu accomplira dans son objectif de délivrer Israël de l'Égypte. Exode 7. Maintenant que Moïse est à bord, il a fallu le cajoler un peu et travailler avec lui, Dieu a été patient avec lui, mais finalement Moïse a été à bord et a finalement pris confiance en lui et était prêt à aller de l'avant. Exode 7. Nous commencerons par le début du chapitre, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je fais de toi un Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » J'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon. Verset 2, « Tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, le dira Pharaon, afin qu'il renvoie les enfants d'Israël de son pays. » J'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Dieu dit à Moïse exactement ce qu'il va faire. Voici le plan. Je vais faire de toi un Dieu. Aaron est ton prophète. Tu vas aller de l'avant. Je serai avec vous. Je vais m'impliquer. Je vais utiliser des signes et des prodiges. Je vais utiliser des miracles pour que cela se produise. Moïse serait comme un dieu. Nous venons de le lire. Je ferai de toi un dieu pour Pharaon. Tu auras mon autorité avec toi. Pharaon, qui se considérait sans doute comme un dieu, les pharaons d'Égypte étaient ainsi. Dieu dit, non, je vais faire de toi un dieu pour lui. Et regardez l'âge qu'il avait lorsque Dieu l'a utilisé. Verset 7. Vous pourriez penser, « Oh, cela ne pourrait jamais être moi. Je ne pourrais jamais faire cela. » Verset 7. Moïse était âgé de 80 ans, et Aaron de 83 ans, lorsqu'il les envoya parler à Pharaon. Moïse a 80 ans, son frère 83 ans. Ce sont des hommes âgés. Ne pensez jamais, Dieu, que vous êtes trop vieux ou trop jeune. Dieu utilise qui il veut quand il veut. Verset 8. C'est intéressant, nous commençons à voir que Dieu met en place ce va-et-vient entre Moïse, Pharaon et les magiciens. J'aime appeler cela un duel de miracles. Il y a ces miracles, ces duels de miracles qui vont s'affronter. Et quand on voit ce qui se passe, on comprend que les magiciens de Pharaon, étaient très puissants, très puissants. Pharaon. De toute évidence, les pharaons de l'époque s'appuyaient sur leurs magiciens et, il ne fait aucun doute que le dieu de ce monde leur donnait du pouvoir. Ils étaient très, très puissants. Cependant, Dieu a voulu mettre en place ces miracles en duel parce qu'il voulait changer le récit. Il voulait que les gens qui connaissaient sans doute ces magiciens, les craignaient probablement et s'étonnaient sans doute de ce que les magiciens pouvaient faire. Dieu voulait changer le récit. Il a donc organisé ce duel de miracles que nous allons lire. Reprenons au verset 8. Exode 7, verset 8. Dieu parla à Moïse et à Aaron, et dit, « Quand Pharaon vous parlera, en disant, « Faites un miracle pour vous. Faites un miracle pour vous. » C'est une drôle de façon de le dire. Mais ce que cela signifie, c'est qu'il faut montrer son pouvoir. Alors Pharaon. Dieu leur dit, « Pharaon va vous faire comparaître devant lui et vous demander de montrer votre puissance. » Montrez-moi les pouvoirs que vous avez. Montrez-moi un miracle pour vous. Tu diras à Aaron, prends ta verge, et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Très bien. Verset 10, Moïse dit. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Pharaon appela aussi les sages et les magiciens. Les magiciens d'Égypte firent de même avec leurs enchantements. Ils jetèrent leurs baguettes, et ces baguettes devinrent des serpents. D'accord, d'accord. Alors Pharaon se dit, « Hé, mes sorciers, mes magiciens ont aussi du pouvoir. » Verset 12. Ils jetèrent chacun leur verge, et elles devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Oups. La verge d'Aaron était manifestement plus puissante que la leur, mais ce n'était que le début de ce duel. Ces miracles en duel qu'ils allaient se renvoyer l'un à l'autre. Moïse, comme vous le suivez ici, comme je le fais, Moïse a transformé l'eau en sang au verset 21. Voyez-le ici. Il a transformé l'eau en sang, mais au verset 22, les magiciens ont également transformé l'eau en sang. Je ne sais pas si nous apprécions toujours cela. Nous savions que les verges avaient été jetées, et qu'ils avaient transformé leurs verges en serpents, mais au verset 22, les magiciens ont aussi transformé l'eau en sang. Des miracles en duel. Moïse a provoqué une invasion de grenouilles dans l'Exode 8, 6. Vous le voyez là, dans Exode 8, verset 6. Dieu s'est servi de Moïse et d'Aaron pour provoquer une invasion de grenouilles, mais les magiciens ont également transformé ou provoqué une invasion de grenouilles au verset 7. Les magiciens ont fait cela avec leurs enchantements et ont fait monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Ils ont donc également fait preuve de puissance. Ils s'affrontent, miracle contre miracle. Parfois, Dieu peut apporter des miracles dans nos vies, mais il semble que les gens qui s'opposent à nous apportent aussi des miracles. C'est comme si ce n'était pas suffisant. Dieu, tu m'aides, mais cela ne marche pas. Il y a ce va-et-vient. Dieu fait une chose et le diable en fait une autre. Eh bien, mes frères, cela ne dure qu'un temps. Cela ne dure qu'un temps. Cela ne dure que le temps que Dieu le permet. Par exemple, la troisième plaie des moucherons, Exode 8, verset 16. Reprenons-le. Exode 8, verset 16, l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et pique la poussière du pays, afin qu'elle devienne des poux dans tout le pays d'Égypte. Verset 17, ils firent ainsi, car Aaron étendit la main avec la verge et fuma la poussière de la terre, qui devint un poux pour les hommes et pour les bêtes. Toute la poussière de la terre devint des poux dans tout le pays d'Égypte. Verset 18. Les magiciens firent des enchantements pour faire sortir des poux, mais ils ne purent pas. Les magiciens ont épuisé leur pouvoir. Ils n'avaient plus de pouvoir. Quelle a été leur réaction? Ils se sont dit, attendez une minute. Nous avons pu faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, nous ne pouvons plus le faire. Quelle a été leur réaction? Verset 19. Le magicien dit à Pharaon, ceci est le doigt de Dieu. C'est Dieu. Ils reconnaissent que ce pouvoir est plus grand que le nôtre. Finalement, même les ennemis de Dieu reconnaîtront la puissance de Dieu. Même les ennemis de Dieu reconnaîtront que ce Dieu puissant est avec nous. Aussi fort que ceux qui sont contre nous puissent paraître, ils ne sont pas aussi puissants que Dieu. Ne l'oubliez pas. Après la troisième plaie, les magiciens ne pouvaient plus faire d'autres plaies. Il en restait sept. Ils n'ont pas pu les faire. Ils n'ont pas pu les égaler. Ils n'ont pas pu reproduire ces fléaux. Le quatrième fléau était un essaim de mouches. D'une manière ou d'une autre, Dieu a permis que ces mouches n'affectent que les Égyptiens et non les Israélites. Contrôlait-il les mouches? Étaient-elles comme des drones ou quelque chose du genre? Comment pourriez-vous? Non, je veux seulement que les mouches aillent vers les Égyptiens et affectent les Égyptiens, pas les Israélites. De même, lors de la cinquième plaie, Dieu a fait mourir les animaux égyptiens alors que les animaux israélites se portaient bien. Je ne sais pas si les animaux étaient jaloux. J'aimerais être un animal israélite et non un animal égyptien. Ils s'amusent. La sixième plaie des furoncles. C'est dans Exode 9 et 11. C'est intéressant. Allons-y. Exode 9, 11. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à souligner. Exode 9, 11. Les magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause de l'ulcère, car l'ulcère était sur les magiciens et sur les Égyptiens. Finalement, ceux qui s'opposent à Dieu en paieront le prix. Ces magiciens ont été spécifiquement interpellés pour avoir expérimenté ces furoncles. Pourquoi les nommer? La Bible aurait pu se contenter de dire que tous les Égyptiens souffraient de furoncles, mais les magiciens ont été spécifiquement cités. Ceux qui s'opposent à Dieu finiront par en payer le prix. Le feu et la grêle pleuvaient lors de la septième plaie qui tuait les hommes et les animaux et détruisait les arbres. Frères et sœurs, ce sont tous des miracles que nous voyons intervenir directement de la part de Dieu. Je suis sûr que les Égyptiens et les Israélites étaient émerveillés. Les pharaons, bien avant cela, et les magiciens ont tous reconnu que c'était l'œuvre de Dieu. Le Dieu de l'univers intervenait. La huitième plaie de sauterelle est arrivée. Et c'est là que l'on commence à voir un changement depuis le sommet. Exode 10. Exode 10, verset 14. Exode 10, verset 14, les sauterelles montèrent dans tout le pays d'Égypte et se posèrent sur toutes les côtes de l'Égypte. Elles étaient très redoutables. Il s'agit donc d'un grand nombre de sauterelles. Avant elles, il n'y avait pas eu de sauterelles comme elles, et il n'y en aura pas après elles. Car elles couvraient la face de toute la terre, et le pays en était obscurci. Elle dévorait toutes les herbes du pays et tous les fruits des arbres que la grêle avait laissés. Rappelez-vous, la grêle a détruit beaucoup d'arbres. Peut-être qu'après cela, bon, il nous en reste un peu. Tout le monde réagit, les Égyptiens aussi, il nous reste un peu d'herbe pour manger. Non, voilà les sauterelles. Elles ont détruit les arbres. Il ne resta plus rien de vert dans les arbres, ni dans les herbes des champs, dans tout le pays d'Égypte. Qu'allaient-ils manger? Les animaux sont morts. Qu'allaient-ils manger? Voici ce qu'il en est. Pharaon appela en hâte Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre le Seigneur ton Dieu et contre toi. » Pharaon reconnaît Dieu et demande pardon. Il plaide pour le pardon. Frères et sœurs, c'est ce que les miracles peuvent faire. Il peut amener ceux qui s'opposent à nous, ceux qui sont nos ennemis, ceux qui sont dressés contre nous, il peut les amener à regarder et à dire, « Vous savez quoi ? J'ai péché contre Dieu. Pardonnez-moi. Je suis désolé. L'homme le plus puissant du monde. Je suis désolé. J'ai péché contre Dieu. » La neuvième plaie se traduit paragraphe 3 jours de ténèbres épaisses en Égypte. Israël avait, tant bien que mal, de la lumière dans ses habitations. Et l'Égypte. Les maisons égyptiennes n'en avaient pas. D'une manière ou d'une autre, Dieu a apparemment suspendu la possibilité pour eux d'allumer des bougies ou une lanterne. Je suppose qu'il a suspendu les lois de la physique. D'une manière ou d'une autre, ils ne pouvaient même pas allumer un feu. Les Égyptiens ne le pouvaient pas. Mais il y avait de la lumière dans les maisons israélites. Frères et sœurs, ce sont des miracles. C'est l'œuvre de Dieu. J'aime le sport, mais ce n'est pas un match de hockey. Ce sont de grands miracles. De grandes choses. Enfin, nous arrivons à la dixième plaie et au dixième miracle, si je puis dire. Et Dieu avait presque fait valoir son point de vue. Nous passons donc à l'Exode 11. Exode 11. Commencez au début du verset. Il y avait encore un fléau à venir. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai encore venir une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. » Ensuite, il vous laissera partir. Quand vous partirez, il vous chassera complètement. Vous serez donc complètement libérés. Parlez aux oreilles du peuple, et que chacun emprunte à son prochain et chacune à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. L'Éternel accorda au peuple la faveur des Égyptiens. Et Moïse était très grand dans le pays d'Égypte. Rappelez-vous qu'il allait devenir un dieu devant Pharaon. Moïse était très grand dans le pays d'Égypte. Je suis sûr qu'il était très redouté par les serviteurs de Pharaon et par le peuple. Moïse était donc devenu, aux yeux de Pharaon, ce dieu dont le vrai Dieu avait parlé. Frères et sœurs, lorsque Dieu pose sa main sur nous, lorsqu'il nous bénit, que ce soit par des miracles ou en posant ses mains sur nous, et que notre vie commence à changer, les gens commencent à nous voir différemment. Les gens commencent à nous voir différemment. Je suis sûr qu'avant cela, ils voyaient Moïse comme un homme de 80 ans qui causait tous ses problèmes. Aaron, c'était un peu la même chose, un homme de 83 ans, personne dont il fallait s'occuper. Eh bien, à la fin, au moment où ils sont arrivés à ce point, leur point de vue avait définitivement changé. Moïse était très grand dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Lorsque Dieu pose sa main sur nous et commence à nous bénir, que ce soit par des miracles ou autrement, cela change la façon dont les gens nous perçoivent. Ils commencent à nous voir très différemment. Nous passons de zéro à héros. Avec la dernière plaie, Dieu a voulu rendre clair ce qu'il faisait, verset 4, Exode 11, 4. Nous allons lire quelques versets ici. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte, et tous les premiers-nés du pays d'Égypte mourront, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière le moulin, et tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte un grand cri, tel qu'il n'y en a point eu de semblable et qu'il n'y en aura jamais plus. Mais contre les enfants d'Israël, pas un chien ne tirera la langue, ni contre les hommes ni contre les bêtes, afin que vous sachiez que l'Éternel met une différence entre les Égyptiens et Israël. Ce miracle a montré, entre autres, qu'il y avait une différence entre le peuple de Dieu et les autres. Frères et sœurs, il y a une différence entre nous et ceux du monde. Je ne dis pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais il y a une différence. Nous sommes le peuple de Dieu, eux ne le sont pas, pas encore. La main de Dieu, mes frères, est sur nous d'une manière unique. Sa main est sur nous d'une manière différente de celle des autres. Il y a une différence entre nous et les autres. Dieu se sert de nous pour multiplier ses merveilles. Chacun de nous est un miracle, venir dans l'Église de Dieu en recevant un esprit, c'est un miracle. Un miracle est un signe. Nous sommes des signes. Nous sommes des signes ambulants. Nous sommes des indications qui marchent. Dieu nous utilise de cette manière. Dieu voulait clairement que ces merveilles, ces miracles soient multipliés en Égypte. Il l'a fait jusqu'à présent, et nous arrivons enfin au verset de la Pâque, au chapitre 12, que nous lirons ici pour pouvoir l'apprécier, car nous arrivons à la saison de la Pâque. Exode 12, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, et il sera pour vous le premier mois de l'année. Abib. Le mois d'Abib. Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'au dixième jour de ce mois. Ce mois d'Abib, ils prendront chacun un agneau selon la maison de leur père, un agneau pour une maison. Un agneau devait donc être choisi. Verset 11. Vous la mangerez les reins sains, les souliers aux pieds, le bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Car je passerai cette nuit dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, hommes et bêtes. J'exercerai mon jugement sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Ce jour sera pour vous un souvenir. Vous le célébrerez comme une fête en l'honneur de l'Éternel, de génération en génération. Vous le célébrerez comme une fête, paragraphe une ordonnance perpétuelle. Verset 22. Tu prendras un bouquet d'hysope et tu le tremperas dans le sang. Il s'agit d'expliquer exactement comment obtenir le sang sur le poteau. Tu le tremperas dans le sang qui sera dans le bassin, et tu frapperas le linteau et les deux poteaux avec le sang qui sera dans le bassin. Et aucun de vous ne sortira par la porte de sa maison jusqu'au matin. Restez donc à l'intérieur. Verset 23. Car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, le Seigneur passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans votre maison pour vous frapper. Verset 24. Vous observerez cette chose comme une ordonnance pour vous et pour vos fils, à perpétuité. Vous voyez cela encore une fois. Verset 26. Et il arrivera que vos enfants vous diront, « Que voulez-vous dire par ce service ?» Nous sommes donc bien dans l'avenir. Dans de nombreuses années et générations, lorsque vos enfants demanderont, « Pourquoi faisons-nous cela ? Pourquoi célébrons-nous cette Pâque ? Quel est le but ?» Verset 26. Et il arrivera que... Verset 27, plutôt. Lorsqu'on te le demandera, tu diras, « C'est le sacrifice de la Pâque de l'Éternel, » qui a passé sur les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et délivra nos maisons, et que le peuple courba la tête et se prosterna. Frères et sœurs, j'ai pris le temps de parcourir cela pour vraiment nous aider à apprécier la protection de Dieu. Apprécier la capacité de Dieu à nous garder même dans une situation difficile, dans une situation difficile. Dieu ne nous sort pas toujours immédiatement d'une situation. Il peut nous permettre de rester dans cette situation pendant un certain temps, de rester au milieu du danger, mais comme nous l'avons vu, il a la capacité et le désir de nous protéger pendant que nous sommes au milieu du danger. Nous devons simplement rester à l'intérieur. Nous devons lui obéir, faire ce qu'il demande. Dans ce cas, restez dans la maison. Restez dans la maison de Dieu. Restez dans l'église de Dieu. C'est la protection que nous pouvons espérer avoir lorsque nous restons à l'intérieur. Lorsque nous restons sous le sang qui est sur tous nos poteaux de porte proverbiaux, il peut y avoir la guerre, la mort, le désespoir, la division, la confusion, mais nous pourrions tous aller très bien, merci. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème, mais nous n'aurons pas les mêmes problèmes que ceux qui sont à l'extérieur de la maison. Nous sommes protégés. Frères et sœurs, nous serons à l'intérieur et nous pourrons regarder par la fenêtre et seulement voir et être témoins des choses qui se passent à l'extérieur et mieux apprécier le fait que nous sommes à l'intérieur. Il se peut que nous devions rester dans une situation difficile pendant un certain temps. Il se peut que nous devions rester dans ce mauvais emploi pendant un certain temps. Nous voulons que Dieu nous délivre. Dieu nous dit, « Vous savez quoi? Restez à l'intérieur. Reste dans ce travail. Je te protégerai. Je prendrai soin de toi. » Il se peut que nous devions rester dans ce mauvais mariage pendant un certain temps. Oh, je n'en peux plus, reste avec cela. Reste avec cela. Je te protégerai. Je te garderai. Nos enfants peuvent ne pas se comporter correctement et nous voulons simplement en finir. Nous voulons lever les mains et en finir. Dieu nous dit, je te garderai dans cette situation difficile. C'était une nuit très difficile pour les Égyptiens, pour les animaux, pour tout ce qui se passait. Mais Dieu a gardé son peuple dans cette situation difficile. Dieu peut nous garder et nous protéger même lorsque les choses autour de nous ne vont pas bien. Pour ce faire, il a souvent recours à des miracles. Mais si Dieu peut nous garder au milieu du danger et veiller à ce que ces choses ne nous affectent pas, il arrive un moment où il est temps pour nous de nous échapper. Il est temps pour nous d'aller de l'avant. Il est temps pour nous d'être délivrés. Nous reprendrons Exode 12 ici. Avant de le faire, c'est intéressant, la délivrance de Dieu. Parfois, la délivrance peut être amusante. Elle ne se passe pas exactement comme nous l'avions prévu. Nous voulons juste sortir de là. Nous voulons en finir. Nous voulons juste nous en aller. Mais parfois, la délivrance peut être drôle ou inhabituelle. Et cela tient souvent au fait que les personnes qui nous retenaient, qui nous opprimaient, peuvent changer complètement d'avis et voir les choses différemment. Mais reprenons au verset 29. Exode 12, 29. Et il arriva qu'à minuit. Encore une nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif qui était dans le cachot. Même le premier-né du prisonnier mourut. Oh là là! Et tous les premiers-nés du bétail. Pharaon se leva pendant la nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut une grande clameur en Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. Donc, toutes les maisons couvertes de sang allaient bien. Dans toutes les maisons où il n'y avait pas de sang, il n'y a pas eu un seul mort. Tout le monde a été touché. Pensez à la tribulation qui va s'abattre sur le monde entier. Il n'y aura pas une seule maison qui ne sera pas touchée. Verset 31. Il appela. Pharaon appela de nuit Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous et sortez du milieu de mon peuple. Sortez d'ici. Partez. Toi et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos troupeaux, comme vous l'avez dit, et partez. Sortez d'ici. Et bénissez-moi aussi, vous voyez comment je glisse cela. » Et il aurait pu vouloir dire, « Vous savez quoi? Si vous partez, c'est une bénédiction, parce que je n'en peux plus. Nous n'en pouvons plus. Partez, partez. » Il arrive un moment, mes frères, où les gens se rendent compte qu'ils ne se battent pas contre nous. Ils se battent contre Dieu et ils n'en veulent plus. J'ai entendu de nombreuses histoires au fil des ans. Vous les avez probablement entendues aussi. Des gens qui changent d'avis. Il y a des gens méchants qui deviennent tout à coup gentils. Alors, vous savez quoi? Je ne peux pas le supporter. Vous gagnez. Ces patrons amers deviennent soudain très amicaux. Ils ne veulent plus vous opprimer. Les gens changent d'avis. Nous perdons un emploi et en obtenons un meilleur. Les circonstances changent. N'oubliez jamais que les mauvais moments ne durent pas éternellement. Les mauvais moments ne durent pas éternellement. Je suis sûr qu'à certains moments, les Israélites ont pensé qu'ils ne sortiraient jamais d'Égypte. Eh bien, non seulement ils sont sortis d'Égypte, mais on leur a donné de l'argent et du bétail à emmener pour leur voyage. Il ne s'agit donc pas d'un simple licenciement, sortez, mais vous savez quoi? Je vais vous donner une indemnité de départ. Je vais vous aider à trouver un nouvel emploi. Je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin. Va-t'en. Bénis-moi aussi. Il est étonnant de voir ce qui est possible lorsque Dieu en a assez et qu'il est temps de nous délivrer. Les Israélites sont passés d'une situation où ils étaient enchaînés à une situation où ils ont été poussés dehors et où ils ont reçu de l'argent et du bétail pour les emmener avec eux. Quel grand, grand changement! Dieu nous délivrera si nous l'attendons. Si nous attendons. Si nous attendons, alors il nous place dans une meilleure situation. Nous nous positionnons pour être placés dans une meilleure situation. Si nous prenons les choses en main, si nous essayons de fuir l'Égypte par nos propres moyens, cela ne marchera peut-être pas très bien, mais si nous laissons Dieu le faire, alors cela peut marcher. Souvent, mes frères, nous voulons simplement être libérés de la situation. Dieu veut que nous soyons libres, mais il veut aussi nous donner quelque chose en cours de route. Nous devons donc être prudents. Nous ne voulons pas prendre les choses en main pour nous libérer d'une situation. Attendons Dieu, laissons-le faire. Quand il le fera, ce sera un miracle. Une fois que les enfants d'Israël se sont échappés, Dieu ne s'est pas contenté de leur donner un tas d'argent, de remplir leurs poches, de leur donner du bétail et de les laisser. Ok, bonne chance. Vous êtes libres. Dieu ne les a pas abandonnés. Il est resté avec eux. Exode 13. Exode, chapitre 13, verset 17. Exode, chapitre 13, verset 17. Lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne le fit pas passer par le pays des Philistins, qui était pourtant proche. Car Dieu dit, de peur que le peuple ne se repente en voyant la guerre, et qu'il ne retourne en Égypte. C'est une chose extraordinaire que nous venons de lire. Tout d'abord, il y a ces Israélites. Ils n'ont jamais quitté l'Égypte. Ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où aller. Leurs poches sont remplies de bijoux, ils ont du bétail et tous ces biens. Leurs armes sont chargées, et ils sont seuls, Où ils sont dans le désert. Ils ne savent pas où aller. Dieu les guide. Et vous remarquez que Dieu a dit, vous savez quoi? Je pourrais les faire passer par le pays des Philistins parce que c'est plus proche, mais si je les fais passer par là, ils verront peut-être la guerre qui se déroule dans le pays des Philistins et ils commenceront peut-être à regretter leur décision. Je ne les emmènerai donc pas là-bas. Je vais leur faire prendre un chemin plus long. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'y vois un signe de miséricorde. Dieu sait ce que nous pouvons supporter, surtout quand il s'agit de quelque chose de nouveau. C'est peut-être la première fois que vous entrez dans l'église. Dieu ne permet pas que le diable, les membres de notre famille ou les épreuves s'abattent sur nous. Sinon, nous pourrions regretter notre décision. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ai-je adhéré à cette église? Pourquoi ai-je commencé à obéir à Dieu? Quel acte de miséricorde! Ils apprenaient encore à faire confiance à Dieu, à connaître ses voies. Dieu voulait passer plus de temps avec eux. Il est étonnant de constater que ce petit verset dit tout cela. Verset 21. 13. 21. Le Seigneur allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Il ne retira de devant le peuple ni la colonne de nuée le jour, ni la colonne de feu la nuit. Dieu était avec eux pendant tout ce temps. Il les avait délivrés de l'Égypte et il est resté avec eux. Sa présence était là avec eux. Il les a conduits de manière miraculeuse. Il intervenait directement. Il était là dans une colonne de nuée et de feu, mais c'était encore en sourdine. Ce n'était pas Dieu dans toute sa gloire devant eux. C'était en sourdine. C'était une colonne de nuée et de feu, mais ils pouvaient le voir. Ils pouvaient voir que Dieu était là. Frères et sœurs, Dieu nous conduit de la même manière. Sa présence est avec nous. Ce n'est pas la pleine gloire de Dieu, mais sa présence est avec nous. Elle est juste atténuée. Y a-t-il des gens qui ont regardé, « Oh, c'est quoi ce feu là-bas? C'est quoi ce nuage ?» Ils disent que c'est Dieu. Je ne sais pas. Non, c'était Dieu. Dieu peut être actif dans nos vies, et nous pouvons le voir. Nous pouvons voir la colonne de feu ou la nuée, mais d'autres peuvent dire, « Ah, ce n'est pas Dieu. » Mais nous reconnaissons Dieu pour ce qu'il est, et plus important encore, nous reconnaissons sa présence qui nous guide dans notre vie. Comme la colonne de nuée et de feu pour les Israélites, Dieu nous guide aussi, et il fait connaître sa présence, et il nous donne des indices de sa présence. Sa présence peut être basée sur des miracles passés qui nous sont arrivés. Peut-être avons-nous été guéris. C'est un signe de la présence de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas Dieu dans sa pleine gloire, mais c'est un signe que Dieu est avec nous. Peut-être que le miracle a été d'obtenir ce travail que nous ne pensions pas pouvoir obtenir. Tant que nous avons obtenu ce travail et que nous nous souvenons de la manière dont nous l'avons obtenu, c'est un signe de la présence de Dieu dans notre vie. C'est cette colonne de nuée et de feu que Dieu utilise pour montrer, pour être la preuve tangible de sa présence. Peut-être avons-nous obtenu la maison ou la voiture de nos rêves, alors que nous ne pensions pas que c'était possible. Tant que nous nous souvenons de l'origine de ce miracle, c'est l'occasion pour nous de voir la présence de Dieu dans notre vie et de voir que Dieu nous guide vers les choses qu'il voudrait que nous fassions. Il peut y avoir des personnes dans notre vie qui nous rappellent la présence de Dieu. Comme la colonne de nuée et de feu, si nous la voyons pour ce qu'elle est, ces personnes peuvent être un signe de la présence de Dieu dans nos vies. Il s'agit peut-être de ce fidèle membre de l'Église que vous pouvez appeler ou envoyer par SMS à tout moment et qui est là pour vous. C'est un signe de Dieu, de la présence de Dieu dans votre vie. Il peut s'agir d'un partenaire que vous ne pensiez pas avoir, que vous avez épousé à l'église. Vous ne pensiez pas que quelqu'un viendrait un jour et chaque fois que vous êtes avec ce partenaire, avec ce conjoint, c'est un rappel de la présence de Dieu dans votre vie. C'est peut-être ce membre de la famille qui est venu à l'église parce qu'il a été témoin de la façon dont la présence de l'église a changé votre vie. Il peut s'agir de cet enfant que le médecin avait dit que vous ne pouviez pas avoir, mais que vous avez eu quand même. Dieu l'a vu différemment. Chaque fois que vous regardez cet enfant, c'est un signe de la présence de Dieu dans votre vie. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que la Bible. Avoir cette Bible, avoir les Écritures et comprendre cette Bible est un signe de la présence de Dieu dans votre vie. Pour vous, c'est cette colonne de nuée ou de feu qui vous guide et vous prouve que Dieu est présent dans votre vie. Nous pouvons consulter les Écritures à tout moment pour savoir ce que Dieu pense et ce qu'il veut que nous fassions. Dieu nous délivre, mais il ne nous abandonne pas. Il nous délivre pour nous conduire. C'est le but de la délivrance. Mais jusqu'à ce que les Égyptiens soient complètement éliminés, il y avait toujours une chance qu'ils puissent revenir, et Dieu l'a compris et il l'a su. Et il savait que son peuple avait besoin d'être délivré de façon permanente. Il devait être libéré de façon permanente. Passons à l'Exode 14. Exode 14. Nous commençons par l'annonce du plan de Dieu à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Dis aux enfants d'Israël de se détourner et de camper devant Pi-Héroth, entre Migdol et la mer, et devant Baal-Zéphon, avant que vous ne campiez au bord de la mer. Car Pharaon dira aux enfants d'Israël, « Ils se sont égarés dans le pays, le désert les a enfermés. J'endurcirai le cœur de Pharaon pour qu'il ne les poursuive, et je serai honoré par Pharaon et par toutes ses armées, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et ils firent ainsi. C'est vrai. Nous voyons donc que Dieu établit un plan. Il dit aux gens de camper près de la mer Rouge et de faire en sorte que Pharaon les poursuive. Verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Il poursuivit les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël sortirent la main haute. Mais les Égyptiens poursuivirent tous les chevaux et les chars de Pharaon, de ses cavaliers et de son armée, et ils les atteignirent en campant au bord de la mer. Verset 10. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens marchaient à leur poursuite. Ils furent saisis d'effroi, et les enfants d'Israël crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « Parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte, tu nous as emmenés mourir dans le désert, ou nous as-tu traités de la sorte pour nous faire sortir d'Égypte? Pourquoi as-tu fait cela ?» Frères et sœurs, les Égyptiens que nous voyons, ou pardon, les Israélites que nous voyons sont terrifiés. Ils sont terrifiés. Et c'est étonnant parce que malgré tous ces miracles, toutes ces délivrances précédentes, toutes ces démonstrations de puissance de la part de Dieu, malgré tout cela, ils étaient terrifiés. Ils ont eu peur. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas les blâmer. Nous oublions parfois tous les miracles que Dieu a faits pour nous. Toutes ces interventions étonnantes, toutes ces choses inattendues, que nous n'avions pas vu venir. Dieu l'a fait. Mais nous pouvons nous trouver dans une situation immédiate où quelque chose est juste devant nous et nous pouvons oublier que Dieu nous a délivrés dans le passé. Cela peut arriver. Cela peut arriver à chacun d'entre nous. C'est ce que fait la peur. C'est ce que fait la peur. Verset 13. Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, restez en place et voyez le salut de l'Éternel, qu'il vous montrera aujourd'hui. Car les Égyptiens, vous les avez vus aujourd'hui. Vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous vous tairez. » Moïse leur dit, « Dieu interviendra. Verset 19. L'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, se retira et passa derrière eux, et la colonne de nuée s'éloigna de devant eux et se tint derrière eux. Avant les enfants d'Israël, il y avait la colonne de nuée, puis la mer. Les Égyptiens se trouvaient de l'autre côté. Eh bien, nous voyons maintenant que Dieu se retire et se place non pas entre le peuple et la mer, mais maintenant entre le peuple et l'Égypte. Et il arriva. Verset 20, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et ce fut, et ce fut entre. Plutôt, le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, et ce fut pour eux une nuée et des ténèbres, mais ce fut pour eux une lumière de nuit, de sorte que l'un n'approchait pas de l'autre pendant toute la nuit. Ainsi, d'un côté de la nuée, les Égyptiens étaient dans l'obscurité, et de l'autre côté de la nuée, les Israélites étaient dans la lumière. C'est étonnant. C'est étonnant. Dieu s'est placé entre les Égyptiens et les Israélites pour les protéger. Frères et sœurs, la prochaine fois que vous aurez un problème, imaginez que Dieu se place entre vous et votre problème. Les Égyptiens n'ont pas pu traverser cette nuée pendant toute la nuit pour atteindre les Israélites. Ils n'ont pas pu le faire. Ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Dieu ne l'a pas permis. La prochaine fois que vous aurez des problèmes, imaginez que Dieu se trouve entre vous et votre problème. Ce problème ne peut pas être résolu si Dieu ne le permet pas. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit reculer la mer par un grand vent d'Orient, pendant toute cette nuit-là. Il mit la mer à sec et les eaux se partagèrent. Les enfants d'Israël entrèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux leur servaient de mur à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et entrèrent à leur suite au milieu de la mer, avec tous les chevaux, les chars et les cavaliers de Pharaon. Tous les Égyptiens se trouvent maintenant au milieu de la mer. Dieu les a placés là où il le voulait. Verset 24. Le matin, l'Éternel regarda l'armée des Égyptiens, à travers la colonne de feu et de nuée, et il troubla l'armée des Égyptiens. Et les roues tombèrent. Verset 23. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur toute la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » C'est ce que fit Moïse. Il étendit sa main sur la mer, et la mer reprit sa force. L'aurore parut, et les Égyptiens s'enfuirent devant elle. Et l'Éternel renversa les Égyptiens au milieu de la mer. Dieu a gardé son plus grand miracle pour la fin. Il a gardé son plus grand miracle jusqu'à la fin. La mer rouge et l'utilisation par Dieu de la mer rouge pour détruire les Égyptiens était le signe ultime, le miracle ultime que Dieu était avec son peuple et qu'il le protégerait. Dieu a gardé son plus grand miracle pour la fin. Les Égyptiens ont été complètement détruits. Frères et sœurs, parfois Dieu garde les plus grands miracles de notre vie pour la fin. Il y a eu des gens sur leur lit de mort, qui pensaient que c'était fini. Ils étaient à l'aise. Ils ont compris que, vous savez quoi? Quand je me réveillerai, je serai dans le royaume de Dieu. Eh bien, Dieu a gardé son plus grand miracle pour la fin. Il les a guéris et ils sont encore avec nous aujourd'hui, où ils ont vécu de nombreuses années. Dieu a sauvé certains d'entre nous d'accidents mortels. Dieu garde ses plus grands miracles pour la fin. Des relations complètement brisées que nous ne voyions pas se rétablir. Dieu les a réunis. Il l'a fait de manière miraculeuse. Des personnes dont les finances étaient en ruine, des faillites, des dettes de cartes de crédit. Je le sais personnellement, une dette à 6 chiffres qui n'allait jamais disparaître s'est miraculeusement envolée. Croyez-moi, je sais que c'est arrivé. Des cartes de crédit pleines à craquer, Tout cela. Apparemment sans avenir financier. Dieu est intervenu. Il a gardé ses plus grands miracles pour la fin. Guérison de certaines dépendances, de la dépression, de choses qui semblaient insurmontables. Dieu est intervenu et a rendu la personne entière. Dieu peut faire cela. Dieu l'a fait et il l'a fait en utilisant des miracles, en utilisant une intervention directe. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi faire tout cela? Pourquoi Dieu les ferait-il passer par tout cela? Pour qu'ils fassent l'expérience de tout. Pourquoi utiliser des miracles pour faire cela? Qu'il s'agisse d'utiliser ces miracles pour attirer notre attention ou l'attention d'autres personnes, ou de nous délivrer d'épreuves ou de nous maintenir dans une épreuve. Pourquoi faire tout cela? Exode 14. Restez ici. Exode 14. Nous l'avons vu au verset 30, il est dit, « L'Éternel sauva Israël ce jour-là de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. » Donc, là où nous en sommes, il les a complètement délivrés. Mais pourquoi faire tout cela? Verset 31. Israël vit cette grande œuvre que l'Éternel avait faite sur les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et crut à l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Le peuple a tout vu et il a craint Dieu. C'est la première raison majeure pour laquelle Dieu utilise des miracles pour son peuple, afin d'amener les gens à le craindre. À l'origine, ces gens craignaient certainement les Égyptiens. C'était leur propriétaire d'esclaves. Ils craignaient ce que les Égyptiens pouvaient leur faire. Les Égyptiens étaient très puissants. Ils étaient oppressifs. Cependant, Dieu est intervenu et a montré sa puissance par des miracles et a dit, « Vous savez quoi? Ne les craignez pas. Craignez-moi. » Proverbe, chapitre 29. Proverbe, chapitre 29. Ne les craignez pas. Je veux que vous me craigniez. Regardez ce que je viens de leur faire. Ces gens qui t'opprimaient, ils sont tous sous l'eau maintenant. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes est un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Lorsque nous craignons les hommes et ce qu'ils peuvent faire de nous, lorsque nous craignons les hommes au lieu de craindre Dieu, nous sommes pris au piège. Cela nous lie. Nous sommes pris au piège. Il est dit, la crainte de l'homme est un piège. Lorsque nous nous préoccupons davantage de ce que les hommes peuvent nous faire que de ce que Dieu peut nous faire, frères, nous sommes pris au piège. Cela nous limite. Mais lorsque nous craignons Dieu, nous sommes libres. Nous pouvons être ouverts. Nous n'avons pas besoin d'être craintifs, il suffit de craindre Dieu, mais nous n'avons pas besoin de craindre ce que les hommes peuvent faire. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Combien d'entre vous ont entendu cela? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Cela signifie qu'elle est fondamentale. C'est le fondement d'une vie meilleure. Lorsque nous craignons Dieu, notre vie est meilleure. Dieu voulait ses esclaves nouvellement libérés avec lesquels il commençait à travailler. Il voulait qu'ils le comprennent et le craignent. L'autre raison se trouve dans le verset, dans l'Exode. Dieu voulait que le peuple le croie. Et c'est même ici, dans les Proverbes 29 et 25, qu'il est dit qu'il faut mettre sa confiance en Dieu. Donc, au lieu de craindre l'homme, mettons notre confiance en Dieu, croyons Dieu. Dieu voulait que les gens le craignent et le croient. C'était son but. C'est pourquoi il a utilisé ses miracles. Frères et sœurs, les miracles sont des interventions directes de Dieu qui suscitent l'étonnement et servent de signal. C'est un peu fort, mais c'est ce que sont les miracles. Comme Dieu a accompli ses miracles il y a des milliers d'années pour les Israélites et que les Égyptiens en ont été témoins, Dieu continue d'accomplir des miracles pour nous aujourd'hui encore, et c'est à nous et à ceux qui nous entourent d'en être témoins. Les miracles signalent beaucoup de choses, énormément de choses, mais le signal le plus important des miracles de Dieu est peut-être qu'il travaille avec nous et qu'il travaille avec nous dans nos vies.